Economica, Anne Isla.
Jacques Lavergne, bonjour. Bonjour.
Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Bonjour Anne, content de vous retrouver.
Bonjour, bonjour à tous.
Allez, citation du jour, comme d'habitude. Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat.
Oui, on peut le dire.
On peut le dire, Anne, vous souscrivez.
Bon, je souscris.
Ça a été écrit en 1802 par un monsieur qui était le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui est resté quand même dans les mémoires, hein, qui est né en 1743, mais 1743, il est décédé en 1826, et déjà, il avait l'idée de ce que sont les banques. Je dois avouer que je partage totalement son avis, moi aussi.
Et il disait aussi qu'il fallait surtout pas les laisser indépendantes ni aux mains du privé.
Il y a du boulot, nous avons largement dérapé depuis Thomas. Bien, aujourd'hui nous allons parler, Anne va nous parler de la Banque Centrale Européenne et du système monétaire européen. C'est un peu d'actualité puisqu'on est en plein dans les élections européennes. J'y reviendrai à la fin de cette émission. On commence par quelques brèves, une que j'ai relevée sur TTSO, le quotidien en ligne qui tous les soirs nous envoie quelques nouvelles qu'il commente. La première brève de TTSO concerne les dépenses militaires dans le monde entier, comme l'a écrit TTSO. Tout va très bien, enfin, surtout pour les vendeurs d'armes, puisque le Stockholm, je devrais vous laisser lire d'ailleurs, Anne, là, ce nom, vous qui êtes férue d'anglais, puisque vous partez à Ottawa, vous nous l'avez dit, dites-moi.
Ah non, mais moi j'ai un anglais francisé, hein. Stockholm International Peace Research Institute.
Oui, c'est bien, je comprends tout ce que vous dites hein, quand vous parlez anglais. En 2023, le monde a dépensé 7% de plus qu'en 2022, et ça fait quand même la 9e année consécutive que ça croît, mais c'est quand même plus que d'habitude parce que c'est la plus forte augmentation en 15 ans. Donc vous voyez, les dépenses militaires, ça croît. Bon, il suffit de regarder l'actualité, on comprend un peu pourquoi. Toutes les régions du monde réarment, alors il y a ceux qui sont en guerre, bon ça on le comprend, puis ceux qui n'y sont pas mais qui doivent s'y préparer, hein, comme disaient nos amis romains, si vis pacem parabellum, hein, on le sait. L'Europe, bien sûr, on le voit, le Moyen-Orient, Israël a multiplié par 3 ses dépenses mensuelles depuis le 7 octobre, vous savez pourquoi. L'Iran a augmenté de plus de 30% la part de son budget militaire alloué aux gardiens de la révolution islamique, un garçon extrêmement sympathique. Ou en Chine, et chez ses voisins inquiets, Taïwan, qui a de quoi s'inquiéter, elle, plus 11%, et même le Japon, que personne ne menace vraiment, mais il semblerait qu'ils aient quelque peu investi. Et bien sûr, les États-Unis tiennent la corde, ils sont inatteignables avec 1,3 milliard dollars, donc plus de 4 fois les dépenses anciennes, et la Chine 300, alors la Chine c'est beaucoup plus modeste, mais enfin ils partaient de plus loin, 300 milliards de dollars, l'Amérique reste quand même le leader avec 55% du total des dépenses mondiales d'armement. Et puis la Russie qui, en un an, a fait 24%. Bon, on sait où c'est pris. Hein. Ils ont quand même quelques ressources, nous le savons. Ça lui réussit quand même parce que les prédictions de croissance pour 2024 pour la Russie, c'était 1,2% en octobre dernier, 2,6% en janvier. Et on passe à 3,2%, ce qui fait 4 fois ce qui est prévu dans les commentaires les plus optimistes de la zone euro. Donc la guerre, ça fonctionne bien. Mais enfin, il faut dire que là-bas, tout l'effort de guerre se fait au détriment de la population et de tous les autres investissements qui seraient normaux, dans un pays.
Oui, mais de toute façon, les investissements en armement se font toujours sur le dos de certains. Hein. Notamment de ceux qui sont tués par les armements. Donc l'indicateur de croissance, encore la preuve que ça ne sert pas.
Que tous ces chiffres ne servent pas à grand-chose et que le PIB, il faudrait revoir cette notion qui n'a pas beaucoup de sens. Alors, autre Autre chose, les fameuses agences de notation, parce qu'on en parle assez souvent, alors Canard chez nous a fait un très très bel article là-dessus, vous savez que on en parle toujours, mais quand on en parle, c'est pour nous faire peur, en principe, hein, pour dire attention. Alors, dans les semaines qui viennent, je crois que c'est dans le fin du mois de mai, me semble-t-il, Anne, hein, les agences vont rendre leur verdict sur l'état de finances de la France, et on se pose la question, est-ce que nous allons conserver notre très bonne note, excellente même, qui est le double A. Il y a mieux, mais voilà, c'est plus cher. De nombreux dirigeants politiques s'inquiètent à l'idée que nous soyons dégradés, mais les professionnels des marchés, eux, ça ne les touche pas beaucoup, ils restent complètement de marbre, parce qu'ils estiment qu'une dégradation aurait un effet quasiment imperceptible sur les taux auxquels la France emprunte l'argent, et dont elle a quand même besoin pour couvrir des déficits assez considérables, plus de 3 milliards, je crois.
Oui, oui.
Donc, ça n'a pas l'air de les agiter beaucoup. Notre notation nous permet d'emprunter à un taux qui est parmi les plus bas du monde. Aujourd'hui, on tourne à 2,80% par an, même si, au final, ça fait quand même une sacrée ardoise. On n'est pas loin du premier de la classe, qui est l'Allemand, qui emprunte à l'Allemagne et qui emprunte à 2,50%. Hein, de 80, de 50, c'est pas colossal. Alors, qu'est-ce qui se passerait en cas de dégradation? Si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, pas grand-chose, puisque ça ne bougerait quasiment pas. Un spécialiste de la gestion de dette, cité par le Canard enchaîné, nous dit, et ouvrez les guillemets, « Un changement de notation ne change rien, car les marchés n'ont pas besoin des agences pour savoir quoi penser de l'économie de la France. Ils récupèrent. Répercutent leur opinion, bonne ou mauvaise, bien avant leur verdict. » Et alors, à quoi ça sert, les agences? C'est pour évaluer notre capacité d'emprunt. Mais nous, on a quand même une assez flatteuse réputation, parce qu'on a d'abord toujours honoré notre signature, puis on y parvient, parce qu'on a des prélèvements, on a la TVA, on a la CSG, on a un IR, impôt sur le revenu, qui est prélevé à la source, donc nos recettes fiscales sont à peu près sûres. Et puis, alors il y a un monsieur qui s'appelle Éric Woerth, qui a été ministre du budget sous Sarkozy, ça ne nous rajeunit pas, qui nous dit que joue aussi en faveur de l'Hexagone la chose suivante, c'est que les liquidités mondiales sont très importantes et le nombre des pays sûrs, entre guillemets sûrs, se restreint. Donc nous sommes globalement protégés par l'euro, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, Anne. Nous sommes aussi, nous avons derrière nous la Banque Centrale Européenne qui, de toute façon, soutiendrait la France. C'est vrai ou c'est faux, Anne?
Oui, c'est vrai. Et puis, de toute façon, la Banque Centrale Européenne est là aussi pour soutenir les marchés financiers, avant tout. Elle a pour fonction de stabiliser les prix, mais elle a aussi pour fonction de stabiliser les actifs financiers. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas très inquiet. Et puis, si on veut jouer contre des dettes, on va choisir des États plus faibles, comme l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Donc on peut jouer contre ces États avec de la dette.
La Grèce a déjà donné, les banques.
Grèce a déjà donné, mais donc c'est pour ça qu'on peut jouer contre ces petits pays-là quand on veut spéculer. Et quant aux agences de notation et à leurs notes, il faut quand même rappeler que les agences de notation sont financées par ceux qu'elles notent. Bon, ça c'est déjà un petit détail particulier d'être en même temps jugé partie, et qu'elles ont aussi donné une note triple A aux actifs toxiques qui se sont révélés toxiques une semaine après avec la crise des subprimes. Donc elles ont des notes, certes,
oui, elles ont des notes.
Oui. Voilà.
Mais pas plus, c'est comme.
Après, elles sont très utiles quand dans l'argumentaire politique, elles sont très utiles. Pour gouverner par la peur en disant les agences de notation.
Qui a intérêt à nous brandir cet épouvantail finalement? Qui a intérêt à nous brandir la sanction?
Tous ceux qui gouvernent par la peur, voilà. Qui ont envie de mettre des politiques d'austérité, de faire reculer les retraites, etc. Voilà. Et de ne pas aller voir la fraude fiscale, tout cela.
Et puis, pour faire passer aussi aux Français la pilule de réforme impopulaire. Et puis, bien sûr, l'opposition, puisque l'opposition s'oppose toujours à tout et surtout. Donc voilà, il y a quand même des gens qui vont se servir de ça, mais sachez, et Anne nous le confirme, sachez qu'au final, ça n'aura pas beaucoup d'impact.
Non, parce qu'on fait partie, oui, des gros pays encore sûrs par rapport à la dette.
Alors, parlons du revenu mondial, et vous savez ce que nous dit Reporter, le quotidien en ligne, excellent d'ailleurs, qui traite beaucoup des problèmes de l'environnement et les problèmes de la Terre. Il nous dit que le revenu mondial va chuter d'ici 2050, tout simplement parce que la crise climatique va finir par assécher le porte-monnaie aussi. Et selon une étude publiée par la revue Nature et qui a été relayée par le quotidien britannique Le Guardian, les revenus moyens dans le monde chuteront de près d'un cinquième au cours des 26 prochaines années en raison de la crise climatique. Alors je me tourne parce que nous avons quelques jeunes femmes et jeunes hommes autour de nous, donc voyez ce qui vous attend, votre revenu que vous ne touchez pas encore, mais sachez qu'il est déjà potentiellement amputé. Alors la baisse serait liée à l'augmentation des températures, des précipitations plus abondantes, des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses qui devraient causer 38 trillions de dollars de dégâts. Alors ça doit faire 38 milliards si je ne me trompe pas, hein, qui manie le trillion et le milliard avec grande facilité, confirme que c'est bien ça. Donc chaque année, en 2049, ce lourd tribut, donc bien plus élevé que les estimations précédentes, on est toujours trop optimiste, est déjà, sachez-le, en partie irréversible pour l'économie mondiale et pour les décennies à venir, en raison d'émissions qui s'accumulent dans l'atmosphère et mettent du temps à disparaître globalement, même si on arrêtait tout rejet aujourd'hui, il faudrait une trentaine d'années pour assainir l'atmosphère. Il y a du boulot, donc ça va entraîner des pertes considérables pour presque tous les pays, avec un impact disproportionné pour les États. Très curieusement, c'est le paradoxe, les moins responsables du dérèglement climatique, ceux qui émettent le moins, vont ceux qui en prendront le plus dans la tête, hein, c'est bien connu.
Mais ça augmentera la croissance.
Mais ça augmentera la croissance, ce qui est important. Donc, on va aggraver les inégalités, mais il faut maintenir la croissance absolument. Dans un monde fini, nous poursuivons une croissance que certains pensent infinie, comme quoi les capitalistes sont les véritables utopistes.
Oui, tout à fait.
Comme le disait M. Charbonneau, dont nous parlions tout à l'heure, hors antenne. Allez, tiens, on termine par l'eau et par l'eau de source. Vous savez que les eaux de source ne sont pas toujours très fraîches. Certaines multinationales prennent apparemment des libertés avec notre État, avec notre santé, pardon, mais notre État, lui, ferme les yeux. On dirait qu'il est un peu complice. Alors, on a eu un rapport confidentiel, mais pas tant que ça, puisque tout le monde en parle, de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a été transmis au gouvernement en octobre dernier, dont Le Monde, Radio France et Le Canard Enchaîné ont parlé, lequel rapport éreintait la qualité des sources de Nestlé Waters. Alors, ce sont Épars, Contrex, Vittel et Perrier. Si ce sont vos eaux habituelles, méfiez-vous. Le niveau de confiance insuffisant concernant l'évaluation de la qualité des ressources, c'est ce qu'a écrit l'ANSES. Des contaminations, c'est pas très ragoûtant, d'origine fécale dans certaines ressources servant à la production d'eau minérale. Alors, présence de bactéries, bien sûr, les traces de ces fameux PFAS, ces polluants éternels, ou des résidus de pesticides. Et ça ne dérange pas du tout Nestlé, qui a été interrogé par Le Canard Enchaîné, qui a dit non. Nous confirmons que toutes ces marques d'eau minérale naturelle peuvent être consommées en toute sécurité. Et puis les agences régionales de santé, les ARS, qui sont quand même garantes de la qualité de ces boissons, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent rien. Comme ça, au moins, elles ne se mouillent pas. Voilà, donc je ne sais plus ce qu'il faut boire. Faites bouillir peut-être l'eau minérale, c'est une idée.
Oui, du vin.
Voilà, en buvant du vin et résorbons nos excédents, nos viticulteurs, nous en serons gré. Anne, on attaque le sujet, le gros morceau de notre émission.
Oui,
les européennes.
Les européennes, le 9 juin, c'est le vote. Et donc, pourquoi pas regarder comment fonctionne le système bancaire européen et notamment le rôle de la Banque centrale. Au niveau de la politique monétaire, c'est la Banque centrale européenne qui décide de la politique monétaire pour l'Europe et ce sont les banques centrales nationales qui exécutent cette politique. Donc, c'est, il me semble intéressant de regarder un peu comment cela fonctionne. Notamment, quand j'entends le gouverneur de la Banque centrale française l'autre jour sur une radio concurrente.
Oui, on peut le dire. Enfin, c'est France Inter. Hein.
François Villeroy.
Ne les menaçons pas.
Villeroy de Gallo, donc c'était le 22 avril, il disait qu'il ne fait pas de politique parce que la Banque centrale est indépendante. La Banque de France est indépendante, mais pourtant c'est tout de même lui qui élabore avec les autres gouverneurs des banques centrales nationales et le gouverneur de la Banque centrale européenne la politique politique, il y a quand même le mot, hein, monétaire européenne. Donc il ne fait pas de politique tout en faisant une politique. Et ça déjà, ça peut paraître un peu compliqué vu de l'extérieur. Il devrait dire plutôt que son indépendance vis-à-vis de l'exécutif et du pouvoir législatif exempte toutes ses décisions et toutes les décisions de la Banque Centrale Européenne d'une validation démocratique. Puisque c'est, me semble-t-il, la seule politique au monde qui n'a pas de sanctions démocratiques. Voilà. Donc, est-ce qu'une politique est toujours une politique quand il n'y a pas de sanctions? Voilà. Il faut poser la question aux politologues.
Hein. Ça s'appelle autrement. Qui a nommé M. Villeroy de Galhau et ses prédécesseurs et bientôt son successeur, vous le savez?
Non, pas exactement. Comment est nommé le gouverneur de la Banque Centrale Française? Je suppose, je ne sais pas.
Et voilà, c'est une question.
Question ouverte qu'il faudrait revoir exactement par qui sont nommés ces gens-là.
On va demander à nos journalistes là qui nous écoutent de regarder. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut sous les yeux. À la fin de l'émission, vous nous donnerez la réponse
exacte. Le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, lui, est nommé par les gouverneurs des banques centrales nationales. Mais par qui sont nommés exactement, puisque la Banque Centrale Française est indépendante, comme toutes les banques centrales nationales en Europe. Donc, on peut s'interroger là-dessus, puisque la politique monétaire consiste notamment à définir les taux d'intérêt, même si ces taux sont très largement aussi influencés par les marchés financiers, mais bon, peut-être qu'on discutera de cela une autre fois. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, comme cela a été le cas dernièrement, hein, cet automne, la Banque Centrale Européenne a décidé d'augmenter les taux d'intérêt. Il y a bien sûr des effets négatifs pour les familles, les entreprises, les collectivités qui désirent emprunter et qui ne peuvent plus emprunter assez d'argent pour acheter leur logement, investir dans leur entreprise, etc.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt, finalement?
Taux d'intérêt, bien, c'est le prix de l'argent. C'est quand vous avez besoin d'argent, à quel prix vous le payez quand on est à l'intérieur d'une zone monétaire. Parce qu'à l'extérieur d'une zone monétaire, c'est le taux de change. Mais à l'intérieur, c'est le taux d'intérêt. Donc, c'est le prix que fait payer la banque pour vous prêter de l'argent. Elle vous prête 100 euros, vous remboursez 103 euros si le taux est à 3%, par exemple. Donc, la banque vous fait payer le taux d'intérêt en contrepartie de l'énorme service qu'elle vous rend en vous prêtant de l'argent. Le taux d'intérêt rémunère donc le service, cette avance d'argent et la prise de risque de la banque. Même si quand on fait un prêt, on doit prendre une assurance, il y a tout de même un risque. Et ça rejoint cette histoire d'agence de notation. En fait, les agences de notation notent le risque et comme le taux d'intérêt doit prendre en compte le risque, voilà, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, la banque qui vous prête de l'argent est ce que l'on appelle une banque commerciale. Hein, c'est le Crédit Agricole, BNP Paribas, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Crédit Lyonnais, etc. On doit tous avoir un compte auprès d'une banque commerciale, ne serait-ce que pour recevoir son salaire, qui doit être versé sur un compte bancaire, et non versé de la main à la main. Donc, les banques commerciales, elles ont un compte à la Banque Centrale Nationale, donc la Banque de France, la Banque d'Espagne en Espagne, etc. Et les banques centrales nationales en Europe sont les banques des banques, en quelque sorte. Et en Europe, elles sont obligées elles-mêmes d'avoir un compte auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc lorsque nous empruntons à notre banque commerciale, celle-ci emprunte de son côté, ou peut emprunter à la Banque Centrale. Mais revenons à la Banque Centrale Européenne. Non, nous avons dit que
c'est... Dirigé par même Christiane Lagarde, c'est ça?
Christiane Lagarde, oui, c'est ça. Et donc une Française aussi. Nous avons dit que c'est cette banque centrale qui décide de la politique monétaire, c'est-à-dire que c'est elle qui décide du niveau du taux d'intérêt de référence de l'économie, ce qu'on appelle parfois le taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel les banques centrales vont prêter aux banques commerciales, et donc par ricochet, le taux auquel les banques commerciales vont nous prêter, à nous,
donc,
individu ou entreprise.
Tout ça influence complètement l'économie Et donc, c'est bien de la politique. Si ce n'est pas de la politique, je ne sais pas ce que c'est que la politique.
Et voilà.
C'est quand même un peu gênant.
C'est un peu gênant.
Donc, ce sont des gens qui n'ont pas reçu, comme l'on dit savamment, l'onction démocratique qui vont déterminer nos conditions de vie et de fonctionnement de l'économie de notre pays.
Oui. Et ça, c'est depuis le traité de Maastricht. Hein. L'indépendance des banques centrales a été imposée par le traité de Maastricht. Donc, toutes celles qui ne l'étaient pas, comme la Banque centrale française, ont dû devenir indépendantes. En France, ça a été en 1994. Donc, elles sont indépendantes. Et pour décider de ce taux directeur, de ce taux de référence, elles ne sont attachées à aucun pouvoir politique et n'ont aucun compte à rendre. Hein. On pourrait imaginer une Banque centrale européenne aussi devant rendre des comptes au Parlement européen, par exemple. Hein. Pas de compte à rendre au Parlement européen. Il n'y a aucune instance politique. Donc ce sont des banques indépendantes, c'est-à-dire non liées à un pouvoir politique et n'ayant aucun compte à rendre. Après, on peut s'interroger si elles ne sont pas liées à d'autres pouvoirs économiques, par exemple.
Alors à quoi sert le ministre de l'économie, puisqu'il ne peut pas peser sur ce genre de décisions qui sont finalement fondamentales ?
Dans les politiques économiques, il n'y a pas que la politique monétaire, il y a aussi la politique budgétaire, la politique fiscale, ce type de politique. Mais a priori, en théorie, dans le fonctionnement européen, la politique monétaire est du ressort de la Banque centrale européenne, les politiques budgétaires sont de la souveraineté des États, mis à part que les États sont quand même tenus d'avoir une discipline budgétaire en matière de déficit et de dette.
Qu'est-ce que c'est que la discipline budgétaire en matière de déficit ?
C'est-à-dire qu'ils sont censés, depuis le traité de Maastricht, depuis la crise des subprimes, c'est pas très suivi, même avant, ça a déjà été, il y a eu déjà des entorses à cette règle, mais ils sont censés avoir un déficit public divisé par le PIB inférieur à 3% et une dette publique par rapport au PIB inférieur à 60%. D'où l'importance de cette croissance. Réponse.
De nombreuses de femmes ont travaillé, elles ont interrogé Monsieur Internet, qui est omniscient. Et voilà, qui nomme le président de la Banque de France ? Voilà ce qu'on peut lire. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le gouverneur de la Banque de France est nommé par décret du président de la République, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent exercer leur droit de veto à la majorité des 3/5. Donc il y a quelque part, et merci mesdames, il y a quelque part...
Une notion politique.
Une notion d'abord politique, et puis il y a le politique, et les élus finalement ont leur mot à dire dans la nomination de celui qui va diriger l'établissement. Mais ça s'arrête là.
Et puis les mandats ne sont pas de même durée. Garantir l'indépendance, les mandats ne sont pas de même durée. Donc, c'est-à-dire que le mandat d'un président de la République ou d'un gouvernement, etc., ne sont pas les mêmes qu'un mandat au sein de la Banque centrale. Donc, ils ont leur mot à dire. Un peu, hein, on va dire. Et puis, ça dépend des moments aussi. Hein.
Ça veut dire aussi que, finalement, ils ont leur mot à dire. Donc, quelque part, très indirectement, notre suffrage joue. Et d'un autre côté, ils ont quand même l'indépendance. Ça veut dire aussi que le monde politique ne peut pas, a priori, ne peut pas influer sur leurs décisions, voire les leur dicter.
Non. Ils n'ont aucun moyen de décider. Et ça, c'est d'autant plus important qu'au sein de la Banque Centrale Européenne, inscrite dans ses statuts, il y a l'objectif de lutte contre l'inflation. L'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est de lutter contre l'inflation. En priorité, on aurait pu choisir d'autres objectifs. La Banque centrale va manier les taux d'intérêt de référence dans cet objectif-là. Et sachant que ces taux d'intérêt ont des impacts, hein, bien sûr, sur les entreprises, sur les ménages, etc., sur l'activité économique. Donc, quand l'activité économique ralentit, eh bien, souvent, le chômage augmente, par exemple. Quand on regarde ce qui s'est passé, Christine Lagarde, donc, comme on le disait, présidente de la Banque centrale européenne, avec les présidents des banques centrales nationales, a décidé l'automne dernier d'augmenter les taux d'intérêt pour, elle le dit elle-même, ralentir l'économie. Elle a dit dans un discours tenu lors du forum de 2023 de la Banque Centrale Européenne consacré à l'activité de la Banque Centrale portant sur la stabilisation macroéconomique qui s'est tenue au Portugal en juin 2023.
À Sintra, qui est une ville magnifique. Ils choisissent toujours bien quand même.
Hein. Ils choisissent bien. Donc, augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, c'était l'objectif, en ralentissant l'économie. En d'autres termes, il vaut mieux peu d'inflation et puis tant pis pour le chômage et puis le virage climatique environnemental, on verra après. Donc c'est le choix de Christine Lagarde, c'est le choix de la Banque Centrale Européenne. À l'automne 2022, le taux d'inflation a atteint 10%. On a même eu parfois une inflation plus importante. On a déjà fait des émissions à ce propos.
Absolument. Alors j'avais posé la question de savoir... Pourquoi faisait-on le choix de lutter plus contre l'un plutôt que l'autre, autrement dit contre l'inflation plutôt que contre le chômage? Mais je vais vous reposer la question tout à l'heure, après notre première pause musicale. Anne, c'est la vôtre, Sana?
Oui, j'ai choisi un morceau de téléphone, ça me rappellera ma jeunesse. Argent trop cher.
Oh! Trop cher, le choix musical de ma complice Anisla, qui voulait, c'était sa Madeleine de Proust pour se rappeler sa jeunesse. Alors, avant, au moment où nous allions lancer cette pause musicale, je vous proposais la question suivante, pourquoi faire le choix de lutter contre l'inflation plutôt que contre le chômage?
Eh bien, c'est la décision que l'on a prise lors des débats de Maastricht, donc en 1992.
Donc c'est politique quand même là aussi.
Oui, enfin, pour moi, c'est
éminemment politique.
C'est éminemment politique. Hein, c'est éminemment politique. C'est toujours... Alors, parce qu'on fait un choix qui correspond à l'idéologie de marché, on dit que ce n'est pas politique, mais l'idéologie de marché, c'est un choix politique. Hein. Donc, on décide de lutter contre l'inflation parce qu'on se dit que comme ça, la monnaie sera neutre, comme si la monnaie pouvait être neutre. Donc, plutôt que de se donner un autre objectif, comme le chômage, mais ça peut être aussi d'autres objectifs. On peut mettre la politique monétaire au service d'autres objectifs, comme un objectif qui est un peu prioritaire en ce moment, l'objectif environnemental et social. Donc, c'est le choix qui a été décidé, inscrit dans les traités européens, et notamment dans le traité de Maastricht. Et ce traité qui met en place l'union économique et monétaire, le système des banques centrales, la création de la Banque centrale européenne et l'indépendance des banques centrales. Or, comme je le disais tout à l'heure, dans les statuts de la Banque centrale européenne, qui ont été rédigés lors du traité de Maastricht, dans un des tout premiers articles de ces statuts, c'est dans les trois premiers, il est précisé que la priorité de la Banque centrale européenne est la lutte contre l'inflation. C'est sa priorité, c'est l'objectif premier, c'est l'objectif que doit suivre la politique monétaire européenne avant tout autre. La stabilité des prix. Donc, c'est une inflation environ à 2% par an. Alors, comment stabiliser les prix quand les prix sont libres? Les prix sont libres dans tous les pays européens. Donc, si on ne peut pas agir directement sur les prix, eh bien, on peut agir sur la demande de consommation.
C'est-à-dire sur nous, sur nos décisions de consommation.
Oui, nous, nos décisions de consommation, nous individus et nous aussi entreprises, hein. Bien sûr, nos décisions de consommation et d'investissement. Donc l'idée, c'est que moins il y aura de demande, plus les prix baisseront. Et pour baisser la demande, il suffit de baisser les possibilités de crédit. Moins on pourra emprunter, moins on pourra acheter de voitures, de logements, investir, etc. Et si on est obligé tout de même d'emprunter, cela est plus coûteux et diminue donc le pouvoir d'achat et la possibilité de consommer.
Donc on éteint un peu la surchauffe éventuellement.
Oui, si on veut, on peut le dire comme ça.
Mais en empêchant les gens de consommer, ça veut dire que les entreprises vendent moins, donc travaillent moins, fabriquent moins, et que toute la chaîne économique se met de façon autoritaire, forcée au ralenti.
Mais oui, c'est un ralenti. Mais Christine Lagarde l'a dit très bien, il faut ralentir l'économie pour baisser l'inflation. Hein, pour, voilà. Et si on consomme moins, mais même les entreprises, pour elles, quand elles investissent, leurs investissements sont plus coûteux. Donc, si, l'idée, si on continue ce raisonnement, moins les individus et les entreprises auront de demandes, moins les entreprises, les producteurs, les artisans, etc. pourront exiger des prix élevés. Ils devront aussi baisser leurs prix. Donc, augmenter les taux d'intérêt permet de faire chuter le niveau de vie de la population et de faire chuter aussi les prix dans ce raisonnement-là. La Banque centrale européenne a remonté ses taux 10 fois ces derniers mois et c'est du jamais vu.
Donc, alors, ça veut dire finalement que on nous impose une façon de vivre. Ça veut dire aussi, si l'on travaille moins, si les entreprises fabriquent moins, vendent moins, comme on sait que la variable d'ajustement, ben c'est la ressource humaine, donc augmentation du chômage.
Un peu, oui.
C'est alors, un peu... Est-ce que ça fonctionne aussi simplement que ça? Et combien de temps, est-ce qu'il y a une inertie ou est-ce que, ça y est, je remonte mes taux, 15 jours après, la surchauffe commence à baisser, l'économie se refroidit et l'inflation baisse? Il y a un temps de latence de combien?
Alors ça, définir exactement le temps de latence, c'est extrêmement compliqué. Il y a un temps de latence, ça va dépendre aussi de ce que les agents font comme anticipation, comment ils vont... Et puis, il n'y a pas que des taux d'intérêt dans une économie, il y a aussi tout un environnement, etc. Donc, il y a des temps de latence, ça prend du temps. C'est pour ça, par exemple, la Banque Centrale Européenne est en train d'annoncer qu'elle va baisser les taux, qu'elle va... en discuter à sa prochaine réunion en juin, mais elle annonce déjà pour prévoir dans le temps, justement, il y a cette idée-là. Alors, c'est vrai que le problème de ces taux d'intérêt, cette inflation, etc., c'est lié aussi à une idée que se font certains économistes, qui est de dire que la masse monétaire, donc l'ensemble des moyens de paiement dont on dispose, est liée au niveau des prix. Mais ces dernières années, enfin, ces 20 dernières années, notamment, on voit que ce n'est pas complètement lié, parce qu'il y a eu beaucoup de création monétaire et pas d'inflation. Jusqu'au Covid à peu près, hein, jusqu'au Covid, la guerre en Ukraine. Hein, il n'y avait pas d'inflation, enfin du 2%, ce n'est pas de l'inflation. Donc, parce qu'en fait, cette création monétaire, elle n'était pas utilisée pour consommer des biens et services, elle était utilisée pour aller sur les marchés financiers. Donc on a aussi cette déconnexion. Et pourtant, au niveau de la Banque Centrale Européenne, on reste sur une ancienne logique, hein, la logique des monétaristes, hein, la logique qu'avait développée Friedman dans les années 70, donc ça commence à dater un peu, hein, une logique simpliste qui dit plus il y a de masse monétaire, plus il y a de moyens de paiement, plus on fait de crédit, plus les prix augmentent. C'est pas foncièrement vrai. Et puis en plus, quand on en a parlé déjà de l'inflation, augmenter les taux d'intérêt pour baisser l'inflation, c'est quand l'inflation dépend de la demande. Mais l'inflation, elle dépend d'autre chose. Elle ne dépend pas que de la demande. On a vu par exemple les marges dans le secteur agroalimentaire, qui étaient restées extrêmement élevées. Donc ça dépend aussi d'autre chose, l'inflation. C'est un processus un peu simpliste. Hein, que de choisir cela. Et ça va être, et c'est du même ordre d'idée ou du même gabarit que les politiques d'austérité. Quand on dit on va faire des politiques d'austérité pour réduire le déficit, mais en réalité, quand on fait des politiques d'austérité, on réduit aussi l'économie et donc on réduit les recettes fiscales. Et quand on réduit les recettes fiscales, on augmente le déficit. C'est l'inverse.
Tout ça est un peu dangereux, non ? Ces manipulations permanentes, on baisse les taux, on les augmente, il y a des contre... C'est pas fluide. La vie économique n'est pas fluide.
Non, alors, non, la vie économique n'est pas fluide. Est-ce que c'est dangereux ?
Ces grands à-coups, là, de dire... On a vu quand même, par exemple, le secteur immobilier, la remontée des taux a fait que le secteur immobilier a souffert. Prenons l'exemple tout basique des agents immobiliers. Certains agents immobiliers ont mis la clé sous la porte parce que voilà, il fallait vivre et on ne vendait plus rien puisque personne n'achetait plus rien.
Oui, oui. Alors, moi, je ne poserai pas la question exacte. Alors, bien sûr, hein, il y a des conséquences et bien sûr, c'est extrêmement difficile pour ceux qui subissent ces conséquences-là. Par exemple, le marché immobilier. Mais moi, je poserais plutôt la question de pourquoi on le fait. Pourquoi on met en place telle ou telle mesure de politique économique. Et ça vaut pour la lutte contre l'inflation ou pour n'importe quelle politique économique. Est-ce que la priorité en économie, c'est d'avoir une monnaie stable ? Est-ce que c'est le taux d'inflation la priorité ? Ou est-ce que c'est le pouvoir d'achat, par exemple ? Ou est-ce que c'est le taux de chômage, par exemple ? Ou est-ce que c'est l'environnement ? Ou est-ce que c'est etc., etc.
C'est un choix politique.
Donc, de donner un critère qui, soi-disant, relève de l'expertise, donc il faut lutter contre le taux d'inflation, puis voilà, c'est tout. Donc, c'est un critère que l'on pose comme ça. Et on va mettre en place les politiques pour lutter contre ça. Alors, moi, je discuterai plutôt de ce critère. Est-ce que c'est le bon critère ? Parce que de toute façon, quelle que soit la politique économique que l'on met en œuvre, il y a des conséquences qu'on peut plus ou moins atténuer, qu'on peut plus ou moins... on pourrait accompagner les gens qui subissent ces conséquences. Mais la question prioritaire, c'est pourquoi on le fait ? Pourquoi cette monomanie de lutter contre l'inflation ? Pourquoi on ne choisit pas d'autres critères de politique économique ? C'est pour ça que c'est éminemment politique. Et c'est pour ça que de dire que les banques centrales sont indépendantes et font des politiques hors des politiques, c'est quand même quelque chose qui était extrêmement bizarre. Et c'est d'ailleurs sur ce point que le traité de Maastricht... Enfin, c'est un point essentiel pour lequel le traité de Maastricht a failli ne pas passer. Hein. Les opposants au traité s'étaient dressés en particulier sur cette indépendance de la politique monétaire. On ne peut pas déléguer une politique à une instance qui n'a aucun compte à rendre aux citoyens européens. On ne peut pas imposer une politique monétaire de lutte contre l'inflation ad vitam aeternam sans que cela soit mis en débat régulièrement au sein de l'Europe.
Oui, alors la Chine, ils le mettent rarement en débat. Hein.
Oui, alors est-ce que la Chine est un modèle de fonctionnement démocratique? On pourrait
c'est
aussi
la Chine aimerait bien imposer son modèle à la terre entière. Je ne sais pas ce que font les États-Unis, ils ont aussi une banque centrale.
Ils ont une banque centrale, ils ont un tout petit peu plus de comptes à rendre quand même au Sénat. Elle n'est pas complètement... Bon, après, elle va avoir aussi une politique monétariste, de lutte contre l'inflation. Elle va aussi avoir pour principal objectif de servir la stabilisation financière, enfin, ces choses-là. Hein, c'est de rendre la monnaie la plus neutre possible, etc.
Alors, l'inflation, elle est liée à la quantité de crédit accordé, donc à la création monétaire, parce que chaque fois qu'on accorde un crédit, finalement, on fabrique de l'argent.
Oui, mais ça ne va pas induire forcément de l'inflation. Parce que donc, ce qu'on a constaté des années 2000 à 2019, à peu près, même un peu avant les années 2000, c'est qu'il y a eu beaucoup de création monétaire, mais que cette création monétaire, elle avait été utilisée pour aller sur les marchés financiers.
Mais ce que vous disiez tout à l'heure.
Et non pas pour aller sur les marchés de biens et services. Et donc, ça augmente pas. Ça augmente pas le prix des biens et services, dans ce cas-là.
D'accord.
Voilà. C'est, si on constate de l'inflation, l'inflation qu'on a constatée là, ces derniers mois, ces dernières années, elle est due à quoi? Elle est due à la crise sanitaire de la Covid, qui a bousculé certains secteurs, notamment certains secteurs d'approvisionnement, de transport, etc. Elle est due à la guerre en Ukraine, elle est due à toutes ces choses-là. Elle n'est pas due à un excédent de crédit.
Donc, ce qu'on appelle, c'est très, très joli mot, la spirale, ça fait rêver, la spirale inflationniste, la spirale prix-salaire, ça ne fonctionne pas non plus.
Non, ça ne fonctionne pas non plus, c'est une vue de l'esprit. De dire, surtout quand on voit le pouvoir qu'ont les syndicats de travailleurs aujourd'hui, de dire que si les prix augmentent, automatiquement les salaires vont augmenter, c'est ça aussi une vue de l'esprit. Parce que ce qu'on constate depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus, c'est une stabilisation, voire une régression des pouvoirs d'achat et des salaires. Et même l'INSEE le montre, aujourd'hui on a la plus forte baisse du pouvoir d'achat des ménages depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc s'il y a une baisse du pouvoir d'achat, c'est qu'il n'y a pas une hausse des salaires, ou du moins que la hausse des salaires est plus faible que la hausse des prix. Même le FMI le dit, la boucle prix-salaire n'existe pas. Et on ne peut pas dire que le FMI est un crobuscule d'extrême-gauche. Hein.
Oui, pas vraiment, ce n'est pas M. Mélenchon qui en a pris la tête pour l'instant.
Pour l'instant, ce n'est pas lui qui en a pris la tête, ni un autre politique de
ce bord-là.
De ce bord-là, voilà.
Donc ces croyances ne sont plus vérifiées?
Non, ces croyances ne sont plus vérifiées, ne sont pas vérifiées, n'ont pu être vérifiées que sur des périodes extrêmement courtes, et pourtant on continue à être obsédé par cette lutte contre l'inflation, par une augmentation des taux d'intérêt. Donc, cette façon de faire, ça permet aussi de montrer aux marchés financiers que la politique monétaire européenne fait tout pour eux. Parce que peu d'inflation, c'est bon aussi pour les marchés, même si cela coûte cher à l'économie réelle. Les ménages, les entreprises, les petites entreprises, les artisans, etc. Donc, je voudrais revenir sur ce point aussi une nouvelle fois, quand on dit que la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales ne doivent avoir qu'un seul objectif, la lutte contre l'inflation, on réduit le champ des possibles en termes d'arbitrage politique, pour ne pas dire que l'on impose le paradigme libéral sans autre alternative. Et donc, on favorise le capital et sa valorisation, et donc les détenteurs de capitaux, au détriment du travail. Donc, ces instances qui sont gardiennes de la stabilité des prix, de la réduction de l'incertitude sur les marchés d'actifs, ces banques centrales, sont devenues de fait, plus largement, les gardiennes de l'intérêt du capital, en imposant en creux et sans débat démocratique leur doctrine aux États.
Alors, tout ça est quand même un peu inquiétant, non?
Oh ben que l'Europe est un déficit démocratique, c'est inquiétant, mais ça fait un moment qu'on le dit et qu'on le redit. Et c'est peut-être aussi l'occasion, les Européennes, de rediscuter de ce point-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas reparler donc de l'organisation démocratique
qu'on vote et peut-être qu'on en reparle après, parce qu'aujourd'hui tout semble être figé comme chaque fois avant un vote important. Donc on se donne rendez-vous en juin pour voir si cette baisse des taux qu'on nous fait miroiter est réelle ou pas.
Oui, on verra. On verra si c'est juste avant les européennes, je crois qu'ils se réunissent le 6 ou le 7 juin. Donc on verra si cette baisse des taux est réelle ou pas. Et on verra comment ils vont pouvoir réussir aussi à les mettre en place, le calendrier qu'ils vont choisir.
Bien, écoutez, pour décompter tout cela, je vous propose d'écouter Anne Sylvestre, que j'aime beaucoup, dans sa lettre à Élise.
Ma voisine ne sait jouer que ça, gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir il n'y en a, la la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon, depuis le temps que tu entends ça, gna gna gna, gna gna gna. Est-ce que ça ne te saoule pas, la la la, la la la. Mais qui était cette Élise qui défrise nos pianos, qui sans fin se gargarise et se grise de trémolo? Dis Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là? Est-ce qu'à ton Élise tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix? La la la, la la la. Comment croire qu'Élise écoutait sans arrêt, sans arrêt, ce machin qui vraiment ne me fait pas marrer, pas marrer. Oui, mais Élise, elle aimait ça qu'on lui redise blablabla. Bla, bla. Pourquoi écrire avec un piano, les petits marteaux, les petits marteaux, quand c'est si simple avec un stylo et puis des mots, rien que des mots? Mais cette garce d'Élise traumatise le bon Ludwig, s'il envoie ses grosses bises, elle les veut en musique. Ah, si seulement elle avait pu se taper le facteur, on n'aurait pas eu à se farcir tous ces doubles soupirs et tous ces ne m'oubliez pas. S'il avait pensé à lui téléphoner, on n'aurait pas écopé ça. La la la, la la la. Chaque jour à l'heure du courrier, et allez, il faut qu'elle vienne massacrer, et taper, et tamponner. Mes chères Élise, il serait bon que vous accusiez réception. Qui sait, mais si vous lui répondiez par courrier recommandé, elle pourrait apprendre par cœur, enfin le gai laboureur. Je sais que je m'en lasserai, mais ça là là, mais ça là là, mais ça me changerait.
Voilà Anne Sylvestre qui écrivait à Élise et qui lui écrivait une lettre ouverte. Vous avez certainement dû reconnaître la mélodie. Alors nous arrivons à nos rubriques de fin d'émission et la première, c'est l'économie en Occitanie. Alors on a eu une décision, j'ai été surpris quand je l'ai entendue, annoncée par Monsieur Moudin, c'est qu'à Toulouse, le prix du mètre cube d'eau potable va désormais coûter 42% plus cher de juin à octobre. et 30% de moins cher le reste de l'année. Ça veut dire qu'on va prendre quand même 12%, si j'ai bien calculé, d'augmentation au passage. Mais c'est intéressant, cette idée. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait, mais on serait quand même la première métropole de France de cette taille à mettre en place cette mesure. Et elle s'explique bien évidemment par la décision nécessaire de faire des économies d'eau face au changement climatique. On n'est pas encore en Catalogne, mais on n'est pas loin. La Garonne, il faut le savoir, est notre unique source d'eau potable. Et vous avez pu remarquer que dès que les mois un peu chauds arrivent, ça baisse terriblement. Donc pendant ces mois, les tarifs de l'eau vont augmenter au moment où cette eau, justement, est la plus rare dans le fleuve. Alors, la mairie estime que ça ne pénalisera pas les ménages qui ne consomment pas plus l'été, les mois majorés étant compensés par 7 mois de baisse du prix de l'eau, nous dit M. Moudenc. Évidemment, ça fait un peu de débat. Le groupe d'opposition de gauche estime que les kits d'économie d'eau pour équiper les ménages permettraient plutôt 25 à 30% d'économie d'eau, plus que les 10% visés par la métropole. Nous ne sommes pas, je la cite, contre la tarification saisonnière, mais nous voulons qu'elle soit accompagnée d'une tarification solidaire et environnementale. Ça, c'est ce qu'a déclaré Madame Sophie Boubidi, qui est élue du groupe Métropole Écologie Solidaire. Elle a dit ça sur France 3 Occitanie. Donc, ça, c'est un problème qui va être débattu dans les semaines qui arrivent. Je ne sais pas si on débattra beaucoup, mais enfin, en tout cas, ça va faire couler, sinon de l'eau, du moins de l'encre. Parce que la tarification de l'eau potable en période de changement climatique et de risque de pénurie, ça fait longtemps qu'on y réfléchit, ça questionne de plus en plus. Les villes de Lyon, Montpellier, Dunkerque, Libourne, qui est en Gironde, ou même, très proche de chez nous d'ailleurs, Muret, instauré la tarification progressive de l'eau. Donc les premiers mètres cubes sont gratuits et après, plus on consomme, plus on paye. Des enquêtes journalistiques et même de scientifiques ont montré que ce choix n'était pas forcément la panacée, d'où la question, est-ce que c'est une posture de la communication ou est-ce que ça va avoir une véritable efficacité? En tout cas, ça vaut le coup de le tenter. Peut-être qu'on va moins arroser les jardins, peut-être qu'on va moins laver sa voiture et peut-être moins remplir sa piscine. On n'est plus trop dans des époques où les piscines ont le vent en poupe, Anne.
Oui, mais moi je suis assez plutôt pour la solution de Muret, Libourne, Dunkerque, etc. Parce que l'eau, c'est un bien fondamental.
Un bien commun. Un commun, on a traité ça, Anne, le
c'est
sujet
un commun, oui, c'est un commun. Et on devrait avoir droit à l'eau parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Donc de dire que les premiers mètres cubes d'eau, ceux qui correspondent aux besoins fondamentaux de l'individu pour son alimentation, son hygiène, etc., soient gratuits. Moi, je trouve que c'est une extrêmement bonne idée. Et après, par contre, bien sûr, si on remplit sa piscine, on paye plus cher. Parce que remplir sa piscine, ça ne relève pas du besoin fondamental pour survivre. Donc, moi, je serais plutôt pour cette seconde solution. Alors, si ce n'est pas la panacée, c'est peut-être, par contre, que le calcul du surcoût que l'on doit payer au-delà donc, des premiers mètres cubes gratuits ne sont pas assez affinés. Peut-être qu'il y a un problème de calcul, mais les premiers mètres cubes gratuits, c'est intelligent. C'est ce que proposaient, par exemple, certains économistes comme Mathias Sen, qui a été pris de la Banque de Suède en 1998. Ça relève du droit fondamental, donc tout le monde doit y avoir accès sans payer.
Oui, donc c'est un problème de l'eau. On a beaucoup traité de l'eau dans l'année dernière. On a fait une série d'émissions Arcania qui était dédiée à l'eau. Je pense qu'on va en reparler encore longuement parce que c'est certainement, les guerres de l'eau vont certainement être ce qu'ont été les guerres du pétrole au XXe siècle. Le XXIe siècle va voir les gens se battre pour pouvoir boire. Quand on regarde la Catalogne et ce qui se passe à Barcelone, où on commence par dire déjà les touristes nous pourrissent la vie d'ordinaire, mais alors en plus ils viennent consommer notre eau, donc on sent que là il y a quelques tensions. La Catalogne française, on a 4 ou 5 communes qui sont ravitaillées, non pas par les corbeaux mais par les camions-citernes. À Perpignan, certains ont même trouver des solutions qui, pour l'instant, n'ont pas porté leurs fruits, à savoir mettre le curé devant avec la croix et de faire des processions en invoquant le Seigneur. Il faut tout essayer. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. La pensée magique ne nous a pas résolu cette délicate question.
Et quant à la Garonne, certes, c'est la Garonne qui produit l'eau, mais la Garonne, elle est alimentée par les lacs de montagne. Mmh. Et l'été dernier, on a vidé des lacs de montagne dans les Hautes-Pyrénées et en Ariège pour alimenter la Garonne.
Sachant aussi que ça peut avoir d'autres impacts, au niveau des poissons bien sûr, mais on a aussi, rappelons-le, une centrale nucléaire qui se refroidit grâce à l'eau de la Garonne. Si l'eau vient à manquer, comment va-t-elle se refroidir? Elle va donc devoir se mettre au ralenti, ce qui n'est pas dans l'air du temps. Donc tous ces problèmes se tenant, c'est un véritable château de cartes, mais l'eau, c'est un grave, très grave problème. Je terminais hier soir la lecture d'un livre que je n'avais jamais lu, mais dont j'avais vu le film, s'appelle « Soleil vert », qui semble tout à fait prophétique. Il y a des questions d'eau dans ce livre où, évidemment, tout le monde prend son jerrycan et va au point d'eau, qui est ouvert ou pas ouvert en fonction des approvisionnements et tenu par la police. Donc peut-être qu'un jour, eh bien, on ira faire la quête au point d'eau comme l'ont fait pendant un certain temps nos frères africains.
Nos sœurs surtout.
Et nos sœurs, oui, qu'ils portaient sur la tête. On a toujours vu qu'elles le portaient sur la tête. Allez, dernière rubrique, le conseil culturel. Alors moi, je vous recommande, pour rester un peu dans l'esprit du temps d'abord et dans l'esprit de développement d'Anne, la revue d'esprit, justement, d'avril 2004, dans son numéro 508, ça s'appelle « Le projet européen à l'épreuve ». Alors au moment où nous allons voter pour les élections européennes et où tout le monde devient de plus en plus, dans un monde qui devient de plus en plus conflictuel et violent, avec une guerre à nos portes qui menace, nos valeurs et peut-être notre liberté sont en danger, donc il est plus que temps de s'intéresser à l'Union européenne qui pourrait, moyennant, nous le savons, c'est imparfait tout cela, il y a beaucoup de choses à dire, à revoir, à refabriquer, mais nous sommes à un tournant, et comme toujours, la démocratie est attaquée, notamment en interne, en Europe d'ailleurs, par les nationalistes de tout poil, notamment un certain monsieur Orban et son modèle dit libéral, ce qui ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, il faut suivre de près ces débats, il faut s'informer, il ne faut pas céder aux sirènes des populistes, aux propos souvent irresponsables, et donc lire entre autres, je dis entre autres parce qu'il ne faut jamais être l'homme d'un seul livre, la revue Esprit d'avril, et puis surtout aller voter en pensant que les enjeux sont fondamentaux et qu'ils ne se résument pas à finalement un débat pour ou contre M. Macron. Il va falloir un peu élargir notre angle de vue, on en a vraiment besoin. Donc, allez voter et intéressez-vous aux problèmes politiques, économiques, sociaux, environnementaux, européens. Anne ?
Oui. Alors, moi, je vais vous proposer d'aller voir une exposition d'un spécialiste de la peinture au pochoir sur les murs du monde entier, un street artiste britannique, très célèbre, qui s'appelle Banksy, qui est totalement inconnu, pas tant que ça, en fait.
Il est connu, Banksy, tout le monde en parle. On voit beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, ce qu'il peint à droite et à gauche.
Et puis, il a un esprit rebelle que j'aime bien. Donc, il y a une exposition Banksy au lycée professionnel Vitry-Urbain, l'ex-Bayard, route de l'Onaguet à Toulouse. Donc, ce qui distingue Banksy, c'est pas seulement son talent artistique ou son anonymat, mais c'est surtout sa capacité à susciter le dialogue et à inspirer l'action. Donc, le lycée Vitry-Urbain se transforme en centre d'art durant 15 jours pour présenter plus de 250 œuvres et objets retraçant le parcours de Banksy. On a jusqu'au 5 mai, je crois, pour aller voir cette exposition, qui était l'initiative de l'équipe pédagogique dans l'atelier bois du lycée professionnel. Une exposition gratuite et solidaire, puisque pour respecter l'esprit de l'artiste, l'exposition est gratuite, comme l'est l'art de la rue que Banksy offre au regard du public. C'est un événement culturel, mais également solidaire, qui s'est donné pour mission de récolter des fonds pour celles et ceux qui agissent pour un monde plus humain, plus juste. Voilà, c'est sans doute la raison pour laquelle cette exposition est l'une des seules que Banksy n'ait pas dénoncée. Les visiteurs sont invités à faire un don, dont une partie est réservée à des projets associatifs à l'issue de l'événement. Et chaque visiteur donateur se verra remettre la fiche collector de l'exposition.
C'est quand même un peu paradoxal qu'un street artiste ait une exposition dans un lieu bien délimité,
oui,
circonscrit.
Mais bon, c'est une façon aussi de le connaître.
Alors Banksy, qui est un artiste discret, mais c'est aussi sa marque de fabrique, puisqu'on ne sait pas véritablement qui il est, à quoi il ressemble, mais de temps en temps... Alors, il y a même des œuvres de Banksy dans la rue qui sont volées, on en a vu une dernièrement, qui est restée exposée pas très longtemps et qui a été dérobée immédiatement, je crois que c'est en Angleterre. Allez, un conseil aussi, vous avez un peu le temps, mais il faut réserver sa date, c'est le 16 mai 2024... Altigone Saint-Aurens, un concert, Gospel Harmonie. Réservez vos places le 16 mai 2024. Alors pourquoi je le cite particulièrement, je l'ai fait déjà sur une autre émission, c'est que c'est au profit d'une association qui s'appelle Action Femmes Grand Sud et qui a pour objet de remettre au travail des femmes de plus de 45 ans. Donc elles sont accompagnées, il y a plusieurs sites en Occitanie, c'est une association qui marche fort bien. Et je pense que dans le mois de mai, je vais recevoir, je ne sais plus à quelle date, sa présidente. Donc Gospel Harmonie, 16 mai 2024, 20h30, Altigone Saint-Aurens. Anne, nous sommes au bout de notre émission.
Merci.
Merci à vous. Merci à Léo Touroul qui était au bouton donc de cette émission Economica, l'émission de Anisla et de Jacques Lavergne. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Et bien sûr, Anne, à très bientôt pour une nouvelle édition d'Economica.
À bientôt.
À bientôt. Belle journée à toutes et à tous.
Belle journée.